Vous deviez lire Néhémie, le chapitre. L'avez-vous lu? Ah, j'ai pas entendu toutes des oui. Ça veut dire qu'il y en a qui ne l'ont pas lu? Ben ça, savez-vous, c'est pas trop pire. Parce que aujourd'hui, c'est un hors-série. Ça veut donc dire qu'il vous reste une semaine pour le lire, par exemple. Et pour ceux qui l'avaient lu, il vous reste une semaine pour le mémoriser. Bon. Je vais juste m'installer. Et je vous invite à tourner, s'il vous plaît, pendant ce temps-là, dans le livre de l'Exode. Où on va lire quelques versets, tout simplement. Excusez. Exode chapitre 13. À partir du verset 17. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Succot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Jusque-là. Il y a un certain nombre d'années, pour ne pas dire plusieurs années, à peu près des années 2001, autour de ça, 2002. Moi, je demeure à Saint-Émile et pas bien loin de chez nous, à un moment donné, on a vu des hélicoptères passer, puis il y avait un feu dans une petite forêt, à peu près là où est-ce que Stéphane et Shirley demeurent maintenant, parce qu'à l'époque, c'était une forêt qu'il y avait là. Et vous savez ce que c'est quand tu as un enfant, on est intrigué par ça, de voir ce feu-là, puis tu entends toutes sortes, les hélicoptères, tout ça, bien, on dit, on va-tu voir papa? Ben, j'ai dit, on va y aller. Ça fait que Gabriel embarque sur son vélo de montagne, et moi, j'embarque sur mon vieux Peugeot 10 vitesses. Et là, il y a des sentiers, il y a des petits chemins, et là, il commence à... « Viens-t'en, papa! Viens-t'en, papa! » Et attends un peu, là, mon jeune. « Viens-t'en, papa! » Là, il me semble qu'on devrait aller... « Viens-t'en, papa! Viens-t'en! » Là, j'ai pogné des sentiers que je n'aimais pas pour mon 10 vitesses. Les pneus sont de large. Ça brassait pas mal. Puis je me disais, c'est-tu un flot qui est en train de m'amener à quelque part? Là? Écoute, ben, c'est quoi l'affaire? Ben, finalement, il avait raison. Parce qu'il connaissait bien le boisé. Il savait pour se rendre sur les lieux par où passer. Et j'ai dû, dans le fond, même s'il y avait des obstacles, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, puis j'avais un paquet de doutes, je devais lui faire confiance et me laisser conduire. Parce que lui savait ce qu'il faisait, même s'il était jeune. Donc, je l'ai laissé faire. Et vous savez, ça, c'est une leçon spirituelle qu'on doit avoir aussi, c'est-à-dire que c'est une possibilité puis une nécessité pour le chrétien d'être conduit par Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'accepter de se laisser conduire, par exemple. Et il y a une mise en garde qu'en partant, j'aimerais faire. Vous savez, j'ai marqué « me laisser conduire, moi ». Parce qu'il faut accepter de se laisser conduire. Comme je l'ai fait avec lui, il faut que j'accepte aussi que Dieu me conduise. Mais vous savez une chose, là je cherche par où je pèse pour le faire avancer. Par là, j'imagine. Sinon, vous allez me l'avancer, les amis. On va y aller un peu plus lentement. Merci. Me laissez guider, moi. Ah, voilà. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, dans la Genèse, on voit très bien qu'au début, il y avait une harmonie dans la création. Dieu a créé, il a vu, il a même dit qu'il a vu comment tout ça était bon, ce qu'il avait fait. Il y avait vraiment une harmonie entre Dieu, ses créatures, et il se laissait conduire. Mais malheureusement, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? La fameuse chute. La chute est arrivée et là, l'être humain, étant d'Adam et Ève, on ne cherchera pas à mettre la faute sur un sur l'autre, on sait toute l'histoire, ont recherché vraiment, ils ont eu un désir vraiment d'être indépendants et de se soustraire vraiment à la direction de Dieu. Et ça, depuis ce temps-là, depuis le moment de la chute, tous les descendants d'Adam et Ève, vous comme moi, quand on vit au monde, on a cette attitude d'un peu rebelle, de ne pas accepter de se laisser diriger par Dieu. Et ça, ce que ça fait, c'est que dans le fond, on se ramasse dans une situation où chacun veut faire ce qu'il fait. J'ai pas vu cette semaine, je vous dirais, je ne l'ai pas vu cette semaine, mais depuis plusieurs semaines, il y a un commercial qui passe, un commercial sur le yogourt. Et au travers du commercial, on voit, hein, je pense qu'il y en a qui l'ont vu parce qu'il y en a qui commencent à danser sur leur chaise. Il y a une petite chanson qui joue en arrière et ça dit quoi? Chacun fait. Vous n'osez pas le dire, hein? Plaît. Ah ouais, on va plus loin. Ce qui lui plaît. Puis c'est tout le temps ça qui revient. Chacun fait ce qui lui plaît. Dans une annonce de yogourt. Bon, on va laisser faire pour le yogourt. Mais voyez-vous, l'idée, c'est que depuis la chute, chacun veut faire ce qui lui plaît. Et on est toujours rebelle à accepter d'être dirigé. Puis c'est vrai dans le monde du travail aussi. On l'a souligné ce matin, justement, quand Stéphane nous parlait des conventions collectives, des syndicats et de tout ça. C'est pas facile de se laisser diriger. Donc, c'est vrai pour nous aussi. Et c'est une mise en garde que Dieu nous fait aussi. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, il dit ceci en parlant de la génération qui sortit d'Égypte. Il dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Donc, naturellement, on a toujours ce désir-là d'être indépendant. Et pour nous, bien, c'est un danger pour nous, ça aussi. Parce que nous, on doit vivre à contre-courant. Comprenez bien ça, qu'on doit vivre comme chrétien à contre-courant. Et nous, on doit se baser sur ce que Dieu veut nous montrer comme étant une voie droite. Alors que le monde, lui, de son côté, est en train d'élaborer ce que lui considère être correct. Et il y a des grands domaines dans lesquels, comme ça, ça se passe. Par exemple, vous savez comme moi que dans le domaine de la morale, ça a-tu changé dans les dernières, pas dans les dernières années, mais dans les dernières années. Je me souviens, moi, d'avoir, à un moment donné, au Camp Brochet, jamais j'oublierai ça, c'était M. Noël Aubut qui était prédicateur, puis il avait dit ceci. Il avait dit, vous savez, si vous prenez le catalogue Sears d'aujourd'hui, ça, il a dit ça il y a à peu près 15 ans. Vous regardez ça, là, puis maintenant, vous prenez ce catalogue Sears-là et vous l'envoyez aux gens qui ont vécu il y a 50 ans, 40 ans, 50 ans. Ils vont pogner le catalogue Sears, puis il y a des parties là-dedans qui vont dire c'est de la pornographie. Parce que la morale a changé. Maintenant, on considère ces choses-là acceptables. Donc, c'est le monde qui décide ce qui est moralement acceptable, qui fait sa publicité sur ce qu'il considère comme étant moralement acceptable, sans se soucier de ce que la parole de Dieu dit. Et vous, comme moi, on risque d'être influencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas être influencé du tout? Vous viendrez me voir. Parce que, aussi bien la publicité est faite pour nous influencer, autant ce qu'on entend autour de nous est fait pour nous influencer. Les gens ne le savent pas, mais ça devient la norme. Que ce soit au niveau sexuel ou autre, dans la morale, et on pourrait faire le tour de beaucoup de secteurs, il y a un danger vraiment qu'on soit influencé. Et c'est pour ça que, pour nous, c'est important d'avoir une direction qui est claire, un chemin qui est sûr pour cheminer au travers de tout ça. Et dans le passage qu'on a lu ce matin, où on voit comment Dieu a conduit son peuple dans l'ancienne alliance, je pense qu'il y a des leçons à nous pour attirer de ça, pour réaliser que autant Dieu a voulu conduire son peuple dans l'ancienne alliance, autant aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il veut conduire son peuple. Stéphane a dit tantôt, croyez-vous que Dieu a un plan pour nous? Oui. On a tous dit oui. Donc oui, individuellement, chacun d'entre vous, Dieu veut vous conduire, il veut nous conduire aussi collectivement comme église locale. C'est ce qu'il désire faire. Comme il l'a fait pour son peuple de l'ancienne alliance, il veut le faire maintenant pour le peuple de la nouvelle alliance. Et il y a des leçons qu'on doit tirer de ce qu'on a lu ce matin, qu'on va regarder tout à l'heure. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 10, 11 nous dit ceci, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, écoutez bien, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si Dieu a permis que ça soit dans sa parole, c'est pour qu'on s'en serve et que ça nous instruise. Et j'ai besoin d'être instruit, vous avez besoin d'être instruit, et il y a des leçons que vous devez et que je dois tirer de ce que je vois là. Et ce sont vraiment des leçons qui vont être utiles pour notre vie chrétienne. Dans le texte qu'on a lu, si on avait regardé avant, vous vous souvenez du contexte? Joseph avait vécu en Égypte. Par la suite, le peuple d'Israël a été soumis à un esclavage incroyable. Et c'est par Moïse qu'à un moment donné, Dieu a suscité, qu'il va délivrer son peuple. Mais quand on a lu tout à l'heure dans l'Exode, chapitre 13, on a vu que lorsque Dieu les avait délivrés, Dieu les délivrait, on a lu que Dieu les conduisit. Voyez-vous, Dieu a fait un rappel ici qu'il délivrait son peuple de l'esclavage, mais pourquoi? Pour les conduire par la suite. Et vous, comme moi, un jour, si vous avez connu le Seigneur, puis vous vous êtes confié en lui, vous avez été délivré de l'esclavage du péché. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous avez été délivré. Maintenant, est-ce que Dieu a fait ça et vous a délivré pour qu'après ça, vous vous organisiez, faites ta vie, fais ce que tu veux, comme ça te plaît? Non. Même chose. Dieu vous a délivré, mais pour vous conduire. Dieu m'a délivré pour me conduire. Dieu nous a délivrés pour nous conduire tous ensemble, pour être avec ses bons soins. Donc, si à quelque part, après votre conversion, il n'y a rien qui a changé, il y a un problème. Parce que Dieu, là, dans le fond, ce n'est pas ce qu'il veut, il veut nous conduire. Donc, on n'a rien vraiment compris parce que Dieu, il doit vraiment diriger notre vie. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a, de comprendre ça puis de l'accepter aussi. Parce que mon cœur est toujours là avec ce désir d'indépendance. Mais pourquoi c'est important pour Dieu qu'il puisse nous conduire adéquatement comme lui veut le faire? Bien, le psaume 23, versets 2 et 3 dit ceci. « Il me dirige, il me conduit à cause de son nom. » Wow! Dieu me dirige puis veut me conduire à cause de son nom. Pour ne pas que je le déshonore. Deux petites remarques. Un matin, en venant, j'ai pensé à ça, là, je me suis dit. Vous savez, si vous allez sur Google aujourd'hui, puis, n'allez pas sur Google, là, oubliez ça. C'est les affaires, de toute façon, moi, je me mêle là-dedans. Supposons que vous écoutez les nouvelles, puis là, vous entendez dire qu'à quelque part, il y a un Joe Blow Fortin qui a été incarcéré. Ça va-tu vous dire quelque chose? Bon, pas grand-chose. Maintenant, moi, je suis marié avec une femme qui a un nom particulier. Elle s'appelle Besnier. Et si vous tapez Besnier sur Google ou dans l'annuaire 411, partout au Canada, vous allez voir qu'il n'y en a pas quasiment. Il n'y en a presque pas de Besnier. Il y a tout un lien qui n'est pas bien, bien loin. Parce que c'est son grand-père qui est venu s'établir ici. Fait que si vous entendez parler à un moment donné qu'un Besnier vient d'être incarcéré, ça va être quoi votre réflexe? Vous allez dire, « Wow! Belle famille, Suzanne! C'est-tu parent avec toi? » Bien, ça a un impact parce que là, le nom que tu portes, il y a des responsabilités associées à ça. Vous vous dites chrétien, il y a une responsabilité de relier à ça aussi, comme chrétien. Je vous donne un autre exemple. Vous savez, j'ai travaillé longtemps comme agent de protection de la faune sur le terrain. Savez-vous qu'un agent de protection de la faune, ça a des valeurs, ça fait respecter la loi et tout ça, mais ça a des responsabilités. Et un agent de protection de la faune qui se fait prendre en infraction, la loi prévoit qu'il va être puni plus sévèrement. Vous faites une infraction, ça vous coûte tant, un agent le fait, ça va coûter pas mal plus cher. Pourquoi? Parce qu'il est là pour représenter quelqu'un, pour représenter quelque chose. Bien, vous comme chrétien, puis moi comme chrétien, c'est pour ça que lorsqu'on se convertit, Dieu ne veut pas qu'on déshonore son nom, et c'est pour ça qu'il veut nous conduire pour nous former comme étant un peu à son école. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est regarder quelques principes concernant la direction du Seigneur. Parce que ces principes-là, il est important qu'on les comprenne, mais aussi qu'on les accepte pour nos vies. Parce que si ça ne reste que des principes qu'on tire de la parole de Dieu et qu'on ne les applique pas dans nos vies, ben, on n'a rien compris encore une fois. Et je dois le faire. Même si ce n'est pas toujours facile, je dois les comprendre, ces principes-là, et me les approprier puis les accepter. Le premier principe que j'aimerais qu'on regarde par rapport au texte, c'est que sa direction ne correspond pas toujours à nos considérations. On a lu au chapitre 13 et au verset 17 que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Lorsque Dieu a décidé de délivrer son peuple par l'intervention de Moïse, il dit clairement que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, parce que passant par le pays des Philistins, ça n'aurait pas été drôle, ça n'aurait pas été long qu'il aurait vu des armées devant eux autres, il n'était pas prêt à ça, et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pris la poudre d'escampette. Ou s'il aurait osé s'essayer direct, ça aurait été pif-paf, on passe à autre chose. Il n'était pas prêt. Ce peuple-là n'était pas prêt pour affronter des problèmes, des dangers comme ça. Ils avaient besoin d'être formés. Et ça, moi, ça me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que ça me montre que Dieu est un Dieu qui m'aime, un Dieu qui est patient. Un Dieu qui me connaît. Un Dieu qui vous connaît et qui sait si vous êtes prêt à faire face, à quel moment vous allez être prêt à faire face vraiment à l'adversité puis aux obstacles que vous allez rencontrer dans votre vie. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur fit faire un détour. Dieu leur fit faire un détour. Et ça, c'est intéressant parce que on ne peut pas savoir exactement le chemin précis. Je vous le dis tout de suite, là, mais on a des bonnes idées par rapport au chemin qui a été pris. Mais quand le peuple est parti, l'idée était que le chemin le plus court, ben, c'était de partir pour s'en aller à Canaan et passer par le pays des Philistins. Mais ils ne sont pas prêts à faire ça. Dieu le sait. Même si eux autres, peut-être, ils pensaient qu'ils l'étaient, Dieu lui le sait. Alors, dans sa patience et dans son amour, il dit non, c'est pas par là qu'on va passer. Il leur fit faire un détour. Mais les détours de Dieu, quelque part, dans ma vie chrétienne, je dois accepter que c'est peut-être le meilleur chemin. Même si je pense que le meilleur chemin entre le point A et le point B, c'est le plus court, Dieu peut en décider autrement. Ça a été vrai pour le peuple de l'Ancienne Alliance, mais aussi ça a été vrai pour un autre. Prenez Paul. Vous souvenez-vous, Paul? Dans son deuxième voyage missionnaire, Paul est parti, puis il s'est en allé, il est allé à Derbe, à Lystre, Iconium, tout ça. Et là, il avait à cœur de s'en aller vers l'Asie. Okay? Mais quand il est arrivé dans ce coin-ci, la Bible dit au chapitre des Actes, chapitre 16, verset 6, que, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Vous ne trouvez pas ça étrange? Paul, un homme de conviction, un homme qui a à cœur d'évangéliser, il part et quand il arrive ici, non, ça ne marche pas, tu t'en iras pas. Empêché par le Saint-Esprit d'aller par là. OK, on va monter vers le nord. Et là, il monte vers le nord en s'en allant vers la Galatie, tout ça. Quand il arrive à peu près dans ce coin-ci, un autre verset. Traversant la Phrygie et la Galatie vers le nord, il s'apprête à entrer en Bithynie. Bon, c'est par là qu'on s'en va, Seigneur. Acte 16, 7, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Hey, ça va-tu mal? Mais c'est quoi que tu veux, Seigneur? Je m'en vais par là, ça ne marche pas. Je m'en vais par là, ça ne marche pas. Mais c'est quoi que tu veux? Bien, le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est qu'il s'en aille vers la Macédoine puis que l'Évangile soit ainsi annoncé dans ces coins-là. Voyez-vous, un détour de Dieu. Maintenant, moi, la question que ça m'amène quand je vois un cas comme l'autre, si j'étais dans le peuple d'Israël ou si j'avais été un accompagnateur de Paul, c'est que ça aurait été quoi, moi, ma réaction? Moi, là, j'aurais regardé ça, puis je me suis dit, « Voyons, Seigneur, sais-tu ce que tu fais? » Ben non. Je le sais que c'est par là qu'il faut que j'aille, il me semble que c'est évident. Puis toi, tu me demandes d'aller ailleurs. Est-ce que je me serais obstiné avec Dieu? Ou pire, j'aurais-tu été un monsieur Boudin? Connaissez-vous ça, des monsieur Boudin? Il n'y a que des messieurs, il n'y a pas des madames Boudin. Bien là, si c'est une même d'abord, bien, m'a boudé. Je ne participerai plus. Je ne lirai plus. Voyez-vous l'attitude? Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé, je vous le confesse. Ça m'est déjà arrivé. Parce que, me semble, ça ne va pas selon ce que je veux. Me semble que je pense que le plan de Dieu, il est par là. Son chemin, il doit aller par là. Bien, je m'obstine ou je boude. Quelle mauvaise attitude. Et c'est ça qui est important, d'avoir vraiment la bonne attitude. Parce que c'est dangereux de vouloir éviter les obstacles, les changements de plan. Stéphane en a parlé beaucoup tantôt, puis aussi Jean-Pierre. Il peut y en avoir des changements de plan de Dieu dans ma vie, dans votre vie, dans notre vie comme collectivité aussi. Et même si pour moi, il me semble que c'est tellement évident que je pars d'ici, puis je m'en vais là, puis ça irait vite, bien, si Dieu nous demande de faire un détour, disons-nous que ce sont les meilleurs chemins qu'on peut avoir à prendre. Parce que c'est un détour qui vient de Dieu. Donc, faisons attention vraiment à notre réaction, autant individuellement que collectivement. Un deuxième principe maintenant qu'on voit dans ce passage-là, c'est que parfois, le chemin de Dieu nous conduit à travers le désert. Dans le verset 18, toujours, il précise effectivement qu'il est fait passer par le chemin du désert. Moi, j'aime bien écouter des reportages sur la nature, des choses comme ça. Mais quand on me parle de désert, j'ai de la misère un peu. Moi, j'aime ça, des bébites. En voir des bébites, des grosses bébites. Mais dans un désert, là, bon, on sent que c'est plate. On sent que c'est pas une belle place. C'est un lieu qui est aride. Et pour ce peuple-là, qui là se ramassait maintenant par un chemin du désert, je les comprends, en partie de dire, où est-ce qu'elle est la bénédiction de Dieu? Il veut nous conduire, mais il va m'amener par un désert, dans des circonstances qui ne sont pas agréables, peut-être dans des épreuves et ainsi de suite. Donc oui, il arrive que la direction de Dieu nous amène aussi dans le désert. Ça peut arriver, individuellement comme collectivement. Et on peut se poser la question, bien, pour quelle raison, Seigneur, tu permets ça? Pour quelle raison? Dans le livre d'Osée, alors qu'Israël est comparé à une femme adultère, à un moment donné, puis que Dieu veut ramener puis lui parler, il dit quelque chose qui est intéressant, que je pense qu'on peut l'appliquer pour nous aussi. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu m'aime, Dieu vous aime. Et parfois, il va permettre dans la vie que vous passiez par des circonstances qui vont vous sembler peut-être être un désert pour parler à votre cœur. Et là, je ne suis pas en train de dire, parce que je parlais d'Israël qui avait péché, tout ça, je ne suis pas en train de dire que Dieu va vous amener dans le désert parce que vous avez péché. Non, même si vous n'avez pas péché, Dieu va à l'occasion vous amener dans le désert comme ça. Parce que c'est le moyen que Dieu va choisir pour vous arrêter, pour m'arrêter, pour vous enseigner quelque chose de personnel qui veut vous communiquer. Et des fois, si vous ne prenez pas vous-même le temps de vous arrêter pour rechercher la face de Dieu, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il va être obligé de vous arrêter, parce qu'il vous aime et parce qu'il m'aime. Donc, ça peut être, dans un premier temps, pour parler à mon cœur. Puis il y a une autre raison aussi, parfois, pour laquelle Dieu m'amène au désert comme ça, dans des circonstances plus difficiles, c'est que ça montre une chose aussi, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie d'extase. Souvenez-vous quand on s'est converti, comment on était? Peut-être qu'on imaginait la vie chrétienne qu'il y a dorénavant, hein? Plus de problèmes par rapport à ci, plus de problèmes par rapport à ça, tout va bien aller. Mais graduellement, le Seigneur vous a-tu montré que ce n'est pas tout à fait comme ça? La vie chrétienne, ce n'est pas tout le temps une vie d'extase. Parce qu'on est encore dans un monde qui, lui, est spirituellement opposé à Dieu. Le monde dans lequel on vit, bien qu'il ne le dise pas formellement, il est opposé dans sa façon de penser, de voir à ce que Dieu lui pense et comment il voudrait que le monde soit. Voyez-vous, ça c'est très... C'est ce qui fait qu'à quelque part... On doit développer cette nécessité-là maintenant d'apprendre la dépendance aussi avec Dieu. De dire, oui, Dieu, tu veux me conduire, mais je vais devoir apprendre aussi à être dépendant de toi. Et là, encore là, il faut que je me pose la question, ça va être quoi mon attitude? Puis loin de moi de juger la vie des autres parce que j'ai regardé la mienne, ma propre vie. Mais quand on passe par des moments d'épreuve, dans des déserts spirituels, on peut avoir toutes sortes de réactions. Suzanne m'a permis de vous glisser un petit mot sur quelque chose qui nous est arrivé. Imaginez quand ça fait 8 ans que tu attends un enfant, que tu pries, puis que tu pries, puis que finalement, tu tombes enceinte. Et que tu accouches de ce beau bébé-là. Bien là, il était beau, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire qu'il est encore là, mais tu arrives avec ça, là. Imaginez un peu la joie que des parents ont. Merci Seigneur, enfin! Gloire à toi! Le bonheur total! Après un mois, une descente incroyable du jour au lendemain. Après un mois, Suzanne a planté. Elle est tombée dans une dépression incroyable du jour au lendemain pratiquement. Et ça a duré plusieurs années. Ça a été pénible comme couple et surtout pour elle. Et dans ces moments-là, on peut avoir toutes sortes d'attitudes. On peut se dire, « Seigneur, tu n'es pas correct de m'envoyer ça. Tout ce que je veux, c'est que tu me sortes de là. » Mais, je rends gloire à Dieu parce que Suzanne, malgré ça, a pu continuer à lire, a pu continuer à persévérer au travers de ça. Et le Seigneur lui a montré des choses, m'a montré des choses aussi comme couple, nous a montré des choses comme couple. Et sans doute que si on n'avait pas passé par ce genre d'épreuve-là, on ne l'aurait jamais compris vraiment. Voyez-vous, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'extase. Et Dieu, des fois, doit nous apporter à des endroits plus difficiles pour parler à notre cœur, puis pour nous rendre plus dépendants de lui. Mais comme il nous connaît, bien entendu, il sait que c'est le moment le plus propice pour nous former aussi. Et on ne doit jamais oublier une chose, c'est que même quand on est dans des circonstances difficiles comme ça, Dieu continue toujours à nous aimer. On peut avoir tendance dans ces moments-là d'avoir Dieu comme un père humain, qui peut-être, on a eu des expériences dans nos vies où on était tellement déçus. Mais n'oublions jamais que Dieu, lui, continue toujours à nous aimer. Il faut se raccrocher à ça, parce que lui, il sait vraiment ce qu'il fait. Un troisième principe maintenant, le chemin où il nous dirige confirme toujours sa fidélité. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que tu lis le texte, puis tu te dis, qu'est-ce que ça fait là, ces versets-là? Au verset 19, il fait mention de Joseph, qui avait fait jurer pour emporter les eaux. Tu lis tout ça, tu te dis, mais c'est quoi le rapport? Regardez bien. Lorsque Joseph était en Égypte, il est mort en Égypte. Mais il espérait qu'un jour, il était convaincu qu'un jour, son peuple sortirait de là. Son peuple partirait de là, et je vais juste vous lire le verset qui précède, je vais avoir un petit flash là, Genèse 50. Regardez bien ce que c'est que Joseph avait dit. Genèse 50. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » On est en Égypte. Joseph va mourir et dit aux gens qui sont là, puis il était bien traité, le peuple d'Israël, à ce moment-là. « Vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Qu'est-ce qui se passe? Pendant combien d'années le peuple est asservi sous l'esclavage en Égypte? Des centaines d'années? Et là arrive Moïse, dans le passage qu'on lit aujourd'hui. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Moi, ça me fait une image. Là. Je comprends qu'on a embaumé Joseph et tout ça. Là. C'est ça qui est écrit dans la parole, hein, vous avez lu, là. Mais j'imagine les eaux. Bon, disons-le de même, Pacados, ou je ne sais pas quoi, là, mais embaumé, Dieu dit, Joseph dit, vous allez ramener ça. Dieu va visiter, vous allez ramener ça. Moïse arrive, ramasse les eaux. On part dans le désert avec les eaux au minimum 40 ans. On s'entend? Et on arrive où? En Canaan. Moïse n'est plus là. Mais c'est Josué qui, lui, on lit dans Josué 24-32, les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte furent enterrées à Sichem. Wow! Hé! Dieu est fidèle. Dieu l'a dit, ça s'est accompli. Peut-être pas dans le temps que les gens auraient pensé que ça se fasse, aussi vite que ça se fasse, mais ça s'est fait pareil. Réalisez-vous ça? Tantôt, on a chanté « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». C'est pas merveilleux, ça, de savoir ça? Les os de Joseph ont été apportés tels que prévu. Donc, combien de fois dans nos vies, on peut avoir eu l'impression peut-être que Dieu ne répondait pas à nos prières, puis peut-être même qu'il nous avait abandonnés. Et c'est souvent le temps qui nous a démontré que Dieu avait raison et que Dieu était fidèle. Et peut-être que présentement même, que ce soit nous comme collectivité ou vous individuellement, vous passez aussi par le désert et vous ne comprenez peut-être pas tout présentement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu reste fidèle. Et à l'instar de ce qu'on vient de lire là, soyez sûrs que ce que Dieu a planifié, il va le réaliser. Un quatrième principe maintenant, après d'échapper ma feuille, ce ne sera pas long. Un quatrième principe, sur ce chemin, Dieu va devant nous. Au verset 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux ». Encore là, je pense à ça, puis je me dis, Dieu était toujours devant son peuple. Dieu savait où il s'en allait, il savait ce qui était pour être rencontré comme obstacle, comme problème, mais il précédait toujours son peuple le suivait. Et Dieu lui voyait toujours plus loin dans le fond. Il était capable d'avoir une vision beaucoup plus à long terme de ce qui se passait, mais ce qui est important, c'est que Dieu était toujours là pour les guider, il était toujours là devant eux. Pour nous, est-ce qu'on se souvient qui on doit suivre pour nous? Souvenez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit en parlant du bon berger et de ses brebis. « Je suis une de ses brebis, vous êtes une de ses brebis. » Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le Seigneur Jésus marche devant nous. C'était vrai pour le peuple de l'Ancienne Alliance sous une forme, mais c'est vrai pour nous ici, aujourd'hui. J'ai fait ça volontairement tantôt. Quand j'ai demandé le chant, quel bonheur de marcher avec lui. Vous vous souvenez? Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. C'est lui qui va conduire. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. C'est un chant d'enfant. Mais bon sang que ça me parle à mon cœur, à moi. J'espère que ça parle à votre cœur aussi. Que Dieu, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, il est en avant de nous et il veut qu'on le suive. Lui, il est toujours là devant nous. Un cinquième principe, sa direction est claire. Attachez vos tuques. Celle-là, là, ça mérite une gorgée d'eau. Ça peut-tu être plus clair que ça? Imaginez, vous êtes le peuple d'Israël, puis vous avez une colonne de nuée comme ça, qui est en avant. Il peut-tu avoir une direction plus claire que ça? Colonne de nuée, dans le jour, colonne de feu, la nuit. Tant qu'ils suivaient cette colonne-là, la route était infaillible. Ça ne peut pas être plus évident, mais il me semble que moi, je tremblerais. Et quand même, il me semble que je serais obéissant en voyant ça. Pourtant, même avec ça, l'attitude n'y était pas toujours du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait demander à Dieu d'avoir une colonne comme ça? Peut-être que c'est ce que des gens aimeraient demander à Dieu, mais on n'en a pas besoin. Parce que nous, maintenant, on a quelque chose qui est encore mieux que ça, quelque part. C'est que le Seigneur nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous avons la parole complète de Dieu. Et c'est à partir de sa parole qui va nous diriger. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Pensez à ça un instant. On est bien plus avantagé qu'eux autres pouvaient l'être à ce moment-là. Mais là, on a sa parole. Donc, quand on a besoin de bien être dirigé par lui, puis qu'on n'a pas une colonne de nuée comme ça, ben qu'est-ce qu'il faut faire? pour la lire. Mais est-ce qu'il faut juste la lire? Non, il faut la méditer aussi, cette parole-là. Puis, je suis surpris de voir, parce que je l'ai vécu dans ma vie, le premier aussi, à quel point on peut avoir de la difficulté parfois à prendre le temps nécessaire pour lire puis méditer la parole de Dieu. Comment ça peut être difficile parfois, ou qu'on ne prend pas le temps, mais on prend du temps pour tellement d'autres choses. Pourtant, c'est sa parole qui va nous guider. C'est sa parole qui va nous donner des versets, qui va nous montrer des choses par son esprit. Vous savez, Jérémie 15:16, il dit ceci, il dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. » Wow! Ça, c'est un homme qui aimait se nourrir de la parole de Dieu. Et pour ça, on a besoin de persévérance aussi. Dans le livre des Actes, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'il y a dit d'eux? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et on voit un peu partout dans la parole l'importance de la lire et de la méditer. Vous êtes ici ce matin, gloire à Dieu! Il faut que ce que vous entendez ne fasse pas rentrer juste ici puis sortir par là. Il faut que ça soit médité, que ça soit, je dirais, ruminé quelque part pour que ça vous apporte quelque chose dans la semaine. Mais dans le reste de la semaine, est-ce que vous prenez du temps pour lire la parole de Dieu, pour la méditer? Parce que si vous ne faites pas ça, il y a un danger. Vous savez, l'apôtre, non pas l'apôtre, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à un moment donné, il leur donne un reproche. Il dit aux chrétiens que ces gens-là devraient être depuis longtemps des maîtres, mais qu'il est encore obligé d'enseigner les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de quoi? De lait. Alors que ça fait longtemps que vous devriez être pas sur le pablum, c'est la viande, en tout cas, la bonne nourriture. Okay? Vous devriez manger autre chose que ça. Vous êtes encore, parole vivante, la transcription va dire, vous êtes des bébés. Si on comprend bien ça, c'est quoi un bébé? Bien, il y a des chrétiens qui étaient là, qui pouvaient peut-être avoir des années de vie chrétienne, mais qui étaient encore des bébés. Donc, ça nous montre à quel point c'est important de se nourrir vraiment de cette parole-là qui, elle, est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier qui va me diriger aussi. Mais là, je dois me poser la question, bien, c'est quoi mon désir? Est-ce que moi, je veux rester à la garderie? À maternelle, peut-être? Au primaire, au secondaire? Parce qu'on l'a dit au début, on est à l'école de Dieu. Et c'est avec Dieu qu'on va grandir. Mais si notre intention est de rester au lait, on va avoir des problèmes tantôt. Parce que le petit bébé, il n'est pas capable de faire face à l'adversité tellement. Oui, comme enfant de Dieu, on a besoin que Dieu nous dirige au travers de tout ça. Mais vous comprenez l'idée? C'est qu'à quelque part, on a besoin de se nourrir vraiment de la parole de Dieu. Et on rencontre de plus en plus de gens là, qui, lorsqu'ils sont dans des difficultés, puis qui voudraient chercher, connaître la volonté de Dieu, ils voudraient avoir des illuminations, des espèces de révélations. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas vous amener quelque chose à l'esprit que vous n'avez jamais lu. Excusez-moi, là. Si vous n'avez jamais lu quelque chose, comment voulez-vous que dans des circonstances plus difficiles, le Saint-Esprit vous l'amène? Connaissez-vous ça, cette machine-là? S'il y en a qui connaissent ça, un scanner, ah, c'est pire qu'un scanner. Excusez-moi, là, c'est un IRM, imagerie par résonance magnétique. Ça, quand tu rentres là-dedans, là, tu te sens comme une momie. Plus t'es gros, moins t'as d'espace. En plus. Et quand tu rentres là-dedans, t'as un petit jet d'air qui t'arrive, dans mon cas, collé sur le nez, bien entendu. D'autres, ils ont un peu plus d'espace. Mais tu peux pas bouger, puis t'as un bouton panique. Et là, ça mène toutes sortes de bruits là-dedans, ils te mettent des choses dans les oreilles ici. Maintenant, tu te demandes, c'est-tu mon cœur qui fait ce bruit-là? Tu ne sais plus. Et là, ils mettent un bouton panique. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui panique. Quand tu es dans une affaire de même, ce n'est pas une grosse épreuve, là. C'est pour mon bien. Puis que tu as des paroles qui te reviennent de la parole de Dieu, ça apaise mon cœur. Si j'ai des chants qui me reviennent et que je me concentre là-dessus, c'est beaucoup plus facile de passer au travers de ça. Ce n'est pas une grosse épreuve. Mais imaginez les chrétiens qui étaient enfermés en prison et qui chantaient des cantiques. C'est parce qu'ils connaissaient des choses de la parole. Donc, quand on veut se laisser guider par Dieu et qu'on veut avoir une direction qui est claire, sans équivoque, bien, il faut absolument qu'on puisse se nourrir du livre par excellence. Sixième principe, juste avant de terminer, sa direction est ininterrompue. Oh, excusez, je reviens en arrière. Exode 13, 21b, il dit « afin qu'il marche jour et nuit ». Alors, pas parce qu'il marchait jour et nuit, mais lorsque c'était le temps de lever le camp, c'était clair, on part. Ça avance, puis on s'en va. Cette direction-là, vraiment, elle était ininterrompue. La nuée de jour, de nuit, c'était la garantie de la présence constante de Dieu au milieu des siens. Dieu veut continuer à vous guider constamment. Savez-vous le danger qu'il y a? Moi, j'ai souvent l'image que je marche avec le Seigneur, je m'en vais. Bien, un moment donné, je vois quelque chose. Oh, oh, là, je m'en vais par là à la place. C'est moi qui lui laisse la main. C'est moi, c'est pas lui. Donc, c'est important de se rappeler que le Seigneur, il est là pour nous constamment, mais qu'on doit faire bien attention pour ne pas rechercher encore là notre indépendance et notre propre volonté. Et le septième, cette direction conduit à bon port. Vous savez, on se souvient qu'Israël a été libéré de l'esclavage lorsqu'il était en Égypte. Il a passé par un temps difficile dans le désert, mais il s'est rendu à Canaan. Il a été à l'école de Dieu pendant ce temps-là. Et pour vous, comme pour moi aussi, à quelque part, Dieu, dans son plan, il veut aussi peut-être parfois nous faire passer dans un désert. J'ai pris cette image-là parce qu'elle vient de très loin, mais Dieu est encore plus loin que ça. Vous comprenez? Dieu voit tout ça, lui. Mais ses promesses, elles sont certaines. Oh, pour moi, il m'a délivré de l'esclavage, du péché, lorsque je me suis converti. Mais maintenant, il y a des bénédictions pour moi. Et pour avoir ces bénédictions-là, il faut que j'accepte d'être à son école, à lui. Mais je suis sûr qu'au travers même de ces épreuves-là, Dieu va me faire grandir et il va m'amener vraiment où il veut m'amener. Oui, pour moi, ma place est assurée, est au ciel. Mais dans mon chemin ici-bas sur la terre, je dois laisser vraiment me conduire. Il y a une question qu'on doit se poser par contre. C'est que, vous savez, depuis la chute, je l'ai dit au début, séparé de Dieu, cette tendance-là toujours à vouloir diriger nos propres vies. Mais on doit se rappeler que Dieu, lui, il nous offre toujours la possibilité. Il est toujours là pour nous offrir la possibilité de nous guider par honneur ou pour l'honneur de son nom. Puis même si je passe par des moments plus difficiles, vous passez par des moments plus difficiles, il va continuer à vous accompagner. Puis même si ça ne va pas dans le sens que toujours on souhaite, il est patient avec vous, il est patient avec moi. Il est patient avec nous comme Église aussi. Lorsque j'ai vu le feu au mois de décembre, je me souviens, l'année dernière, là, des gens pouvaient partir à toutes sortes de « pourquoi, 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 pourquoi ?» Moi, je n'ai pas la réponse. Je sais qu'une chose, hein, Dieu nous parle au travers de ça. Et maintenant, on est ici, on est rassemblés comme Église locale, Dieu a un plan. Je suis convaincu de ça. Dans mon fort intérieur, je suis convaincu. Puis son plan, il n'est pas comme le mien, j'en suis sûr. Parce que moi, d'un plan, là, de toute façon, je ne suis pas fort. Mais voyez-vous, si ensemble, comme communauté, comme Église locale, on fait confiance à Dieu et qu'on accepte qu'il nous forme au travers de ça, on va aller exactement où il veut nous amener, puis ça va être pour sa plus grande gloire. Êtes-vous convaincu de ça? Moi, je le suis. Bien, il y a une chose, par exemple. La question, c'est est-ce que je suis prêt à le laisser me diriger? Est-ce qu'on est prêt à le laisser nous diriger? Et ça, la question, il faut se mettre devant Dieu pour ça, pour régler ça, pour qu'on puisse collectivement avancer avec lui. Prions. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour cet exemple, cette instruction que tu nous donnes dans ta parole. Oui, Seigneur, c'est des images au peu qui sont frappantes, mais ça nous rappelle à quel point tu nous aimes, et tu nous aimes trop pour nous laisser comme on était lors de notre conversion. Seigneur, dans ta patience, dans ton amour, tu daignes nous former à ton école. Merci, Seigneur, de ce que, au travers parfois des épreuves, tu continues à nous former, nous préparer à d'autres obstacles que nous allons rencontrer par la suite. Merci parce que tu veux nous transformer à l'image et à la stature de ton propre Fils. que tu aimais tant et que tu as donné pour nous. Donc, Seigneur, dans ta grâce, viens continuer à nous accompagner au travers de tous ces plans que nous pensons faire, mais qu'ils puissent être sous ton regard et avec ta bénédiction. Dans le nom de ton Fils, on t'en prie. Amen.